Vous voyez, quand un enfant crie comme ça et qu'il hurle dans l'église, et que c'est absolument immaîtrisable à moins d'expulser le papa, eh bien on est comme en exil. C'est vrai, on est dans une sorte d'impossibilité. Vous êtes coincé sur vos chaises, Constance hurle près du confessionnal, certainement à la fin, certainement ça lui pique quelque part. Et nous, on est en exil. Et son papa, d'ailleurs, est le premier en exil, parce que lui, il a le son et l'odeur. Chers frères et sœurs, nous vivons en ce moment des événements assez incroyables. Je pense que hier, la plupart d'entre vous, vous étiez devant votre poste de télévision. Peut-être que certains privilégiés étaient dans la cathédrale. Tout à l'heure, on les entendra. Qu'est-ce que cet événement nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers la parole d'écriture qu'on a lue, qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que ces mouvements, cet enfant qui crie, la cathédrale qui se réveille, le cœur de chacun d'entre vous, sans doute préoccupé par plein de choses, beaucoup de joie probablement, des angoisses, des énervements, des inquiétudes, une espérance. Il y a de grandes chances pour que, si on est assez attentif, comme je le disais à l'instant, on puisse aussi, à notre tour, faire l'expérience de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil ? L'exil, dans l'Ancien Testament, on l'a entendu dans la première lecture, on l'a senti un peu dans la première lecture, c'est le peuple qui est déplacé de ses racines. Le peuple ne peut plus se nourrir de Dieu. En tous les cas, apparemment, ils sont chassés du temple. Ils sont chassés de la ville qui avait été désignée pour eux. Ben, c'est un peu ce qui nous est arrivé. On a été chassés du temple. La cathédrale a brûlé, on ne peut plus célébrer, l'archevêque ne peut plus s'asseoir sur sa cathèdre. Il y a un mouvement d'exil, clairement. Bon, c'est un petit exil, parce que un exil plutôt confortable, hein, parce que à côté de ce qui attendait le peuple qui est parti à Babylone, eux, ils ont été traités comme des esclaves. D'ailleurs, pas tant que ça, finalement. Ils étaient malins, les gens de Babylone, parce qu'ils les ont utilisés. Oui, ils étaient en esclavage, mais en même temps, ils étaient dans une forme de confort aussi. C'est-à-dire qu'il y a des traces ténues, extrêmement ténues, de l'action de Dieu dans leur vie, qu'on pouvait voir même en exil. Vous savez, par exemple, un prophète avec eux, Jérémie, qui leur redonnait espoir, qui est Zacharie. Vous voyez, ils n'étaient pas seuls, ils avaient les moyens de voir que Dieu était toujours avec eux. Mais leur cœur pouvait être loin, très loin. Et il y avait mis l'occasion pour ça, de comprendre que leur cœur était loin. Parce que quand vous vivez en exil, tout vous paraît insupportable. C'est vrai, les mœurs des gens du coin étaient insupportables pour ceux qui étaient en exil. Exactement comme pour nous, je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, pour moi, c'est clair, il y a des mœurs qui sont insupportables, qu'on vit aujourd'hui dans la bonne ville de Paris, en France et ailleurs. Il y a des choses qui sont insupportables à entendre. Quand on entend qu'il y a certaines lois qui passent aussi facilement au Parlement, dans un Parlement qui ressemble un peu à une cour de récréation plus qu'autre chose, on peut s'inquiéter. Vous voyez, on peut être angoissé. On peut se dire, mais pas seulement où va la France, mais aussi que vont devenir mes enfants? Qu'est-ce que je bâtis pour mes enfants? Qu'est-ce que je bâtis pour ma communauté? Vous voyez, on peut être dans cette situation d'exil communautaire, d'exil du point de vue de mon pays ou d'exil du point de vue de l'humanité. Mais on peut être aussi en exil d'un point de vue tout à fait personnel. Quand, par exemple, on est assaillé par le relativisme, tout se vaut. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Les vieux et les jeunes, c'est pareil dans la fonction où je peux, dans la mesure où je peux en tirer le maximum, etc., etc. Une incapacité à pardonner. Ça, c'est un péché qu'on peut avoir au fond de notre cœur, incapacité à pardonner aux gens que je vais bientôt rencontrer à Noël. Parce que nos familles sont toutes cabossées, tout autant qu'on est, on a des familles cabossées. Et il y en a certains qui vont avoir un repas de Noël à faire, qui vont avoir une soirée de Noël à faire. Et je pense qu'on est nombreux à se dire, oulala, comment ça va se passer avec tant de gudule qui peut pas saquer oncle Fernand. Bon, je vous la fais douce. On a du mal à pardonner. Les pays ont du mal à se pardonner, les communautés ont du mal à se pardonner. Ça, c'est pas compliqué, hein. Regardez vers le sud. Mais il y a un autre péché aussi qui est récurrent dans nos cœurs, qui nous met en exil de Dieu, qui crée des vallons, qui crée des montagnes. C'est l'indifférence vis-à-vis de Dieu. On vit comme si Dieu n'existait pas. Oui, c'est vrai, on vit comme si Dieu n'existait pas. Pensez aux décisions que vous avez prises, aux récentes décisions que vous avez prises. Est-ce que vous les avez prises en prenant le temps de demander au bon Dieu ce qu'il en pensait ? Après, évidemment, vous avez une intelligence qui est nourrie par la foi. Donc, on peut penser que vous avez pris les bonnes décisions. Mais combien d'entre nous prenons des décisions sans faire gaffe à la présence de Dieu? Je pense au Père, mais je pense aussi au Fils qui est ressuscité et qui vit avec nous. Petit détail. C'est-à-dire que quand vous vivez une réunion au bureau, le Christ ressuscité est là, hein, à côté de vous. Vous êtes chrétien, il est là. Est-ce qu'on fait gaffe à ça? Il ne s'agit pas de devenir des mystico gazeux et de parler d'un monde parallèle en permanence. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vivre une vie concrète avec le Seigneur. Quand on ne comprend pas une personne, est-ce qu'on prie l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous apprenne à comprendre cette personne? C'est ça, vivre avec Dieu, vous voyez. Donc c'est vivre lentement, parce que c'est long. S'arrêter deux jours pour prendre une décision, ralentir le rythme pour prier l'Esprit Saint. On vit en exil. Facilement, en fait, assez facilement. Et je parle pas du matérialisme ambiant qui, Noël approchant, va nous tenter de nous engloutir. Parce que c'est vrai que c'est vachement sympa d'avoir tel objet ou tel autre objet. On est d'accord. Pour les enfants, la promesse d'un cadeau qu'on a attendu, c'est quand même super sympa. Non ? On est tous, au fond, un peu des enfants qui attendons quelque chose. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait devant cet exil? Eh bien, le Seigneur fait une autoroute. Une autoroute. Et autoroute, c'est sécurisé, c'est large, ça va vite, ça vous met d'un point à un autre, ça coûte un peu cher, on va le voir dans 3 secondes. Mais ça nous mène au but. Et on est souvent, c'est vrai, l'autoroute, c'est quelque chose de joyeux, de confortable. On a même tendance, c'est tellement bien qu'on s'endort. Enfin, moi, dans l'autoroute, je m'endors, hein, clairement. Alors, j'écoute des conférences et à ce moment-là, je sens que la voiture zigzague. Heureusement, il y a les trucs sur la droite, là, vous faites, ça fait tac, 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 tac. Hop, le père Antoine, il faut qu'il fasse gaffe. Ouais, mais dans nos vies, c'est pareil. L'autoroute, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Il le dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le dit lui-même, je suis le chemin, je suis le lieu par lequel tu peux aller. D'ailleurs, il prend la comparaison de la porte, mais c'est un peu pareil. Je suis le lieu par lequel tu peux passer. Le Seigneur lui-même bâtit une autoroute. Il bâtit l'autoroute pour aller vers Dieu, pour aller vers la paix, pour sortir de l'exil, pour sortir de nos repliements sur nous-mêmes. Il le bâtit, l'autoroute, le Seigneur, mais c'est très très clair. Comment il le fait? Par les sacrements. Vous avez en vous la Trinité. C'est une centrale atomique d'amour, la Trinité. En vous, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Puis il y a les sacrements. Il n'y a pas que ça. À notre âme de victoire, vous avez 6 bonnes sœurs fantastiques qui vous aident tous les jours. Mais pas que ça non plus. Vous avez des frères et des sœurs qui vous ont aidé toute la semaine. Si vous êtes attentif, je suis sûr que vous pouvez faire mémoire d'un frère ou d'une sœur qui vous a aidé, qui vous a soutenu par un sourire. C'est ça, c'est comme ça que le Seigneur bâtit l'autoroute. C'est sa providence qui organise la victoire. Sauf que, il y a un petit détail qui peut faire mal, mais en même temps c'est la vérité, c'est que le Seigneur ne veut pas bâtir cette autoroute sans nous. Et c'est ça le message central d'aujourd'hui. Le Seigneur, il nous dit, je peux te sortir d'exil. Et tu as envie de sortir d'exil et je vais te sortir d'exil. Ta cathédrale intérieure a brûlé. Je le reconstruis par le baptême. Je reconstruis cette cathédrale intérieure par le sacrement de réconciliation. Je nourris tes murs intérieurs, je les éclaire, je les nettoie par l'action de l'Eucharistie en toi, qui est une œuvre de guérison. Tout ça, je le fais pour toi. J'aplanis en toi les vallées et les montagnes qui t'empêchent de profiter pleinement de Dieu. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je le fais, mais j'ai besoin de toi pour continuer la route. Je ne peux pas le faire sans toi. Vous voyez, hier soir, en observant, en regardant ces images, je vous avoue que je n'ai pas passé ma vie. Juste ce qui m'a frappé, c'est l'évêque qui cogne contre la porte. Là, j'ai trouvé cette image très très belle. Mais au fond, frères et sœurs, je me disais, mais c'est juste un point de départ. C'est juste la sortie de l'exil. En fait, ce que dit le pape quand il s'adresse à nous, vous savez, il a dit un mot en disant, pourvu que ce soit une prophétie de la conversion de la France. Et moi, j'y crois vraiment très profondément. Je pense que la France est en train de se convertir. Mais c'est que le début du début, comme dirait Winston Churchill. C'est que le début du début. Et ce que le Seigneur nous demande maintenant, là, tout de suite, dans cette basilique, c'est bâti l'autoroute avec moi. Comment est-ce que on peut faire pour bâtir concrètement l'autoroute avec le Seigneur, pour aller vers la Jérusalem de la paix, pour profiter pleinement de Dieu? 3 points très simples que vous connaissez vraiment par cœur. Mais c'est des petites suggestions que je vous fais comme ça. 1. Priez. Priez, priez, priez. Il y en a parmi nous qui vont à la messe tous les 15 jours. C'est pas possible. Ça suffit pas, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que vous feriez avec un ouvrier dans un chantier qui travaillerait toutes les demi-heures? Si vous êtes le chef de chantier que je connais, vous allez lui dire que ça ne va pas le faire. Il va falloir changer de stratégie parce que on ne peut pas bâtir un immeuble en travaillant toutes les demi-heures. C'est pareil. Vous avez besoin de Dieu, donc vous avez besoin de prier pour que Dieu perfectionne votre volonté, votre mémoire et votre intelligence. C'est comme ça. Donc, 1, si vous voulez bâtir l'autoroute, priez. 2, lutter contre les dépendances. Frères et sœurs, je confesse 6 heures par semaine. C'est effarant le nombre de dépendances que j'entends. Particulièrement dans 2 domaines, la pornographie et l'alcoolisme. Alcoolisme et tabagisme. Et maintenant les écrans. Nous sommes dans la période juste avant Noël, où le Seigneur se propose de nous aider à cesser ces addictions. Ça ne vient pas que de nous, avec nos petites forces et nos petits ongles. C'est le Seigneur qui nous dit, si tu fais un pas pour construire cette autoroute, j'en ferai 10 000 avec toi. Si tu veux commencer à arrêter la pornographie, j'en ferai 10 000 avec toi. Si tu veux commencer à arrêter d'être esclave des écrans, je ferai 10 000 pas avec toi. Mais j'ai besoin que toi, tu commences. C'est ça que le Seigneur nous dit. 2e point. Attention les addictions, si vous voulez bâtir l'autoroute. Voilà une petite suggestion. Et 3e suggestion, on a des péchés récurrents, qui ne sont pas des addictions, mais des péchés récurrents. Et c'est les genres de péchés que vous confessez tout le temps. Ça peut être le mensonge. Prenez les 7 péchés capitaux, voilà, vous allez les retrouver. Et tous autant qu'on est, on en a un où on n'est pas au clair avec. Tout le monde, hein, les prêtres qui sont là, compris. Le diacre. C'est un saint diacre. Les sœurs. Non, mais on a tous. Si on fait la liste des sept péchés capitaux, vous êtes sûr qu'il y en a un où vous dites. Je ne suis pas trop clair. Je vous invite à le prendre, celui-là. Et à faire juste une chose. Je ne vous demande pas de lutter contre, comme des bœufs. Je vous demande juste une chose. Faites le contraire. Faites le contraire. Par exemple, vous avez l'habitude de mentir. Vous savez, les petits mensonges à la one again, comme dit un de mes amis. Les petits mensonges qui sont comme de l'huile, c'est ce qu'on croit. Qui en fait sont comme des cailloux, mais bon. Au contraire, vous vous dites, je vais dire la vérité. Tant pis, je vais me griller. Je vais prendre le risque de me griller. Le mensonge. Et après, vous pouvez dérouler tous les autres. L'orgueil. En ce moment, j'ai tendance à me la péter, comme dirait un de mes autres amis. Toi, le curé en chasuble violette, du haut de tes marches, là, tes trois marches. Mais c'est vrai, on peut avoir tendance à toujours se mettre au-dessus, à toujours avoir. Ça se repère facilement parce que. Quand on discute avec les gens, on ne veut jamais avoir le dernier mot. Voyez, on veut toujours avoir le dernier mot, par exemple. Voilà. On veut toujours avoir l'argument qui tue. Et blablabla, ça n'arrête pas. Toujours, on veut être au-dessus. Voilà. Taisez-vous. Faites le contraire, juste le contraire. C'est un truc qui marche vraiment bien. Et en faisant ça, c'est clair que vous bâtirez l'autoroute. Et c'est clair qu'on à mon avis, en faisant ces trois points-là, en travaillant ces trois points de chantier, parce que dans un chantier, j'ai découvert ça récemment, il y a des lieux préférentiels qu'on travaille d'abord, les uns après les autres, pour mettre en œuvre les choses, pour que ça tienne. Trois choses à faire pour préparer la venue de Jésus et pour être prêt le 24 décembre au soir, non seulement à s'émerveiller, mais à profiter de la venue de Jésus qui fait toute chose nouvelle dans le cœur de chacun d'entre nous. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à bâtir cette autoroute avec le Christ. Amen.